Welcome to the show. Six and Dash Hip Hop Show. Bringing you the best.
Bringing you the best
in hip hop.
Turn it up. DJ, turn it up.
Welcome to the show, Six and Daz, épisode 2. Avant de commencer, je tiens à vous remercier tous autour de cette table, que ce soit Gis et Six, pour ce formidable show que vous proposez.
Merci, je tiens
également à remercier les retours de nos auditeurs, des retours qui sont plutôt positifs, puisqu'une fois qu'on a réglé le problème de l'écho très persistant qu'il y avait dans ton premier appart,
exactement, qui était volontaire, je le rappelle,
c'était un écho organique et volontaire, ben en fait on a réglé quasiment tous les problèmes, donc n'hésitez pas évidemment à nous féliciter, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à proposer vos retours constructifs, même si en fait vous le saurez pas, parce que je sais très bien que les auditeurs ne sont jamais constructifs, mais on va faire comme si. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, que ce soit sur le forum de qualité ou sur Twitter, pour nous insulter Six et moi, et même Gis si vous voulez.
Surtout Gis,
ouais. Parce que c'est quand même lui, hein. si ça sonne mal, c'est de sa faute, c'est pas compliqué. Alors, après l'épisode 1 sur 50 Cent,
yes.
Explique-moi Six.
Ben non, on va sortir de New York. On va sortir de New York. Eh oui, on va sortir de New York. On va aller du
côté. C'est-à-dire qu'on va à Newark.
On va aller un petit peu plus loin encore. On va poursuivre vers le sud et on va aller du côté d'Atlanta.
Le Dirty South. Quelle entrée en matière et puis quelle rime riche, un T.I.P. live from the VIP.
Eh oui, personne l'avait fait avant lui, hein. C'est ça qui est...
Du coup, pour nos auditeurs qui n'auraient toujours pas compris, malgré ces indices assez probants, de qui on va parler, de qui on parle, Six.
On va parler de T.I.
T.I.
le plus new-yorkais dans le flow des rappeurs du Sud.
Ça, c'est oublier quand même 2-3 mecs.
Attends, il va chipoter.
Que j'ai en tête, mais bon, ok. Oui.
Disons qu'il sera surnommé le Jay-Z du Sud par les Neptunes.
Les Neptunes qui sont déjà des mecs de Virginie, donc déjà du Sud.
Déjà du Sud, qui sont, sont déjà dans le terrain, quoi. Sur le terrain. Mais bon, on va parler, oui, de Clifford Joseph Harris, donc de T.I. Mm-hmm. Dit aussi Tip.
Ou T.I.P. Aussi,
voilà, T.I.P.
Live from the VIP, ok.
Dit le King.
En toute modestie. Ouais.
Dit le Rubber Band Man.
Ouais, alors Rubber Band, hein, je le dis, c'est parce qu'il a autour du poignet les élastiques qui permettent de tenir les billets de banque. Rubber Band Man, bien sûr.
Parce qu'il n'a pas le temps d'aller faire un dépôt.
Bien sûr.
On n'a pas le temps de faire un dépôt. Ou alors le Trouble Man. Mais ça, on verra plus tard pourquoi le Trouble Man. Et donc, on est à Atlanta, et là, on revient dans nos histoires classiques comme Bleak et comme 50, c'est-à-dire une enfance dorée.
Ouais, t'es toujours quand même plutôt orienté sur des artistes qui auraient pu finir à la DAS. Hein,
Je me rends compte, je suis très...
Donc une enfance dorée, une enfance cuillère d'argent, c'est ça?
Voilà, exactement, donc parents divorcés.
Bon, classique.
Père sur New York, donc il fera beaucoup d'allers-retours sur New York.
Donc il voit encore son père.
Et ça, c'est déjà une évolution.
Okay.
C'est déjà une évolution. Donc il va faire beaucoup d'allers-retours sur New York, qui peut expliquer des fois son flow moins lazy, moins layback que quand les rappeurs du Sud normalement. Il est un peu plus incisif justement, parce qu'il va surtout passer de longues périodes dans les quartiers de New York. Et donc, il sera élevé par ses grands-parents, en fait.
Classique. Ça, c'est classique.
Exactement. Okay. Donc, il va faire ses petits deals à 14 ans, et il va commencer ses allers-retours dans les maisons de correction. Jusque-là, normal.
Ah, complètement
avant
classique.
Avant ça, je sais pas ce qu'il aurait fait. Aller à l'école, avoir des bonnes notes, non. Et donc, sa grand-mère lui va lui donner le surnom de Tip, justement. Tip. Et alors, j'ai pas réussi à savoir pourquoi.
Bah, c'est
Tip.
Un petit surnom.
Ouais, Tip. Tip, viens ici.
Alors qu'il s'appelle Clifford Joseph. Clifford, quoi.
Ouais.
Tip, donc, Cliff, ouais, non, je sais pas.
Et ça, c'est un surnom qu'il va garder. Ce sera vraiment son surnom. Tout le monde l'appellera comme ça. Il va garder ça jusqu'à la signature de son premier deal chez Arista Records. Et chez Arista Records, il y a un autre type. Et quel type?
Ah, bah oui. Q-Tip.
Voilà, le Q-Tip.
Ouais. Donc, Q-Tip, un des leaders de Tribe Called Quest, qui est un groupe mythique de New York.
Exact.
Donc, c'est sûr que quand il y a un mec qui s'appelle Q-Tip dans ta maison de disque, tu peux pas y aller en disant moi je m'appelle Tip. Voilà. D'accord.
Et donc, ils vont changer. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils vont prendre lui et sa maison de disque, il le dit dans une interview, on va avoir une sorte de réunion d'urgence. Ouais. Bon, Tip, c'est pas possible. Q-Tip, il est là, il faut que je change de nom. Allez, on trouve quelque chose. Et ils vont alors la meilleure chose qu'ils vont trouver, c'est T.I. Les deux premières notes de type. Et c'est vraiment faute de quoi. Ils disent, dans l'interview, ils ont pas trouvé mieux, quoi. Ils font des réunions de travail, mais ils n'ont pas réussi mieux que les deux premières lettres de type.
Ils auraient c'était, bien, c'était bien la peine de faire des réunions.
Je pense que T, c'était ouais. pris.
Ou I. Ouais. Donc T.I. D'accord. Ouais. Donc en fait, hein, T.I. c'est un diminutif du vrai nom.
Ouais, de type.
C'est pas type qui est un prolongatif du non. faux nom.
Exactement.
Du bref. Enfin, je voilà. vous comprends. Voilà. Mais ok.
Donc, premier album.
Donc, chez Arista.
Chez Arista en 2001. Un album, donc avec un titre, il va arriver avec un titre sérieux avec le Beanie Man. Fuck that, I mean it for the longevity. Picture me as one of the greatest that'll ever be. Comparing me to Tupac, B.I.G. and Jay-Z. We're legends like Organo, I.Z. and J.D. Neptunes, the even flow, I'm one of Dre's D's. Fly to Miami, chill with Luke and we can trade freaks. I'm freak shows and peepholes under shade trees. But KP say just keep it top notch. And make sure that the club is jumping like it's hopscotch. Floss rocks and in the summer keep the top draw. $10,000 worth of clothes when I go shout. In a Apollo. Alors il dit qu'il est dans le game pour la longévité. Puis ensuite, il parle de Tupac, Biggie.
Exactement.
Alors, en plus, ouais. en 2001, il s'était déjà fait sécher, donc... Ouais. Ok. Il parle de Jay-Z, de ouais. JD aussi, JD ouais. qui est mort ouais. en 2006.
Ouais.
Donc lui, bon, là, il pouvait pas savoir.
Là, mais... il pouvait pas savoir. Mais
ça, il cite des artistes, les trois quarts sont morts, mais ouais. ok. Et il cite Jay-Z, bien sûr.
Il est sûr de lui. Là, T.I., il est sûr de lui. Je pense que c'est un très, très bon rappeur. C'est un des rares rappeurs du Sud... Parce qu'il y a une très, à New York, il y a une condescendance. Les rappeurs de New York.
Oh souvent, là là.
Voilà. Ils considèrent les rappeurs du Sud, voire de l'Ouest, ça peut arriver.
Bah, évidemment. Non, mais, parce que, alors, il y a un truc. C'est que moi, j'étais évidemment beaucoup plus ouais. West Coast. OK. Mais j'écoutais quand même du rap new-yorkais. Et le rap du Sud nous a tous pris par surprise. Ah, alors oui. que les États-Unis, c'est un rectangle. Donc, techniquement, la face sud, elle est beaucoup plus longue que les
bien
deux
sûr,
côtés.
Bien sûr.
On aurait dû s'en rendre compte.
Bien sûr, bien sûr.
On aurait dû bon, s'en rendre
c'est
compte.
C'est vrai. Non, mais un peu de géométrie, c'est important. C'est
non, important. Mais il faut rappeler que je crois que c'était aux American Music Awards de 95 ou de 94 que Outkast s'est fait siffler. C'était à New York. C'était en 95, parce qu'après, Suge Knight, il avait défié tout New York en disant de venir chez Defro.
Ah oui, il avait dit,
c'était foutu ouais. la gueule de Bad Boy. Ouais. Donc ça, c'était en 95, les gens sifflaient Outkast. Mmh. Outkast qui est un groupe inscrit au Panthéon du
hip-hop. Bien sûr, bien sûr. Non, mais il y avait une vraie condescendance, c'est vrai, des rappeurs de New York qui considèrent que le hip-hop, c'est de chez eux.
Déjà, ils n'étaient pas d'accord entre eux, entre Queens et le Bronx.
Et donc, mais T.I., c'est certainement le seul rappeur qui est vraiment très, très respecté. À chaque fois que je discutais avec les MC, tout le monde disait, T.I., respect, très, très grand MC. Oui, vraiment, il était vraiment super respecté. Vraiment une, d'ailleurs, sur ses albums, il aura quasiment tous les artistes. Il a réussi à inviter tous les artistes de Eminem à Jay-Z, à tous les artistes new-yorkais sont venus poser sur ses albums. C'est intéressant d'ailleurs, ça.
T'as cité Eminem.
Oui, non, bien sûr, bien sûr. Non,
mais c'était pour montrer qu'on parle.
Voilà, exactement.
Okay, parce que les gens, je reviens rapidement sur l'épisode 1, les gens m'ont dit, ouais, j'ai tapé 50 Cent 9 balles et j'ai eu le nom du mec qui a tiré.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, un commentaire sur SoundCloud. Merci à toi, auditeur de SoundCloud. Et effectivement, c'est vrai, c'est parce que nous ne faisons pas d'émission Wikipédia.
C'est vrai.
Nous puisons essentiellement dans nos souvenirs. Donc voilà, on sait qui a tiré sur 50 Cent. Donc
okay,
on sait qui est un très mauvais tireur. Je rappelle, pour tirer 9 balles de 9 mm, j'avais cru que c'était du petit calibre. Non, c'était du 9 mm. Le mec a raté un gars en lui mettant 9 balles dans la gueule quand même.
Mais les gardes chasse maintenant dans l'État de New York.
Non, bon, on donc, le fin on de la salue. Digression, et voilà, pas de chronique Wikipédia, voilà. Mais on sait quand même de quoi on parle. Alors, cet album, donc le premier album chez Arista, il vend combien?
Il va vendre 200 000, ce qui est faible.
200 000 à l'échelle américaine?
C'est très faible, oui, parce qu'on est loin du disque d'or qui est à 500 000, donc. Et donc, il va se faire dropper, quoi, il va se faire virer.
C'est-à-dire que Arista, un album, un échec, les mecs, ça l'est, ouais. t'es dehors.
Apparemment, ça devait pas leur suffire. Ça, ouais, c'est très sympa. Ça devait pas leur suffire.
Ouais.
Mais c'est un mal pour un bien parce qu'à partir de là, il va créer son propre label.
Grand Hustle.
Voilà, Grand Hustle Entertainment. Et il va le signer avec notamment DJ Drama. Et moi, DJ Drama, pour la petite note personnelle, c'est quelqu'un que je connaissais bien parce qu'à l'époque, je distribuais ses mixtapes en France. Et quand vous voyez les mixtapes, Celebration et tout ça, c'est moi qui les distribuais en France, qui faisait venir ça. J'avais un ami à la Fnac. Je le salue, Franz.
Et t'as réussi à avoir T.I. sur un maxi ou pas?
Non, malheureusement, à 3 mois près. À 3 mois près, tu vois. Eh oui, parce qu'à 3 mois, pourquoi? Parce que juste après, en 2003, le T.I. qui s'est fait sortir de son label Arista,
ouais.
il va atterrir dans un autre album d'un fat baby de la région, qui s'appelle Bone Crusher.
Bone Crusher.
Avec le morceau Never Scared.
Be a master,
Alors ça,
la douceur.
Ah là, c'est du 100% sud. Ça ressemble un peu à la Three Six Mafia de Memphis.
Oui,
ça ressemble aux Big Timers de la Nouvelle-Orléans. Enfin, là, au niveau de l'instru, les petits les snares là. C'est... Ah, j'adore. Super. Mais par contre, faut pas écouter un album entier, sinon tu deviens fou. Par contre,
Et c'est ça, c'est un morceau qui va cartonner.
Ah bah
qui
oui, là, il y a tout là-dedans.
Il va faire numéro 1 au Billboard hip-hop R&B. Et donc, ça va être son premier tube. Tiens, vraiment au tube où il va être au niveau national.
Oui, mais
national.
Alors attends, parce que là, c'est un morceau de Bone Crusher. Lui, il est juste en featuring.
Oui, mais ça va être une première reconnaissance. Les gens vont se dire, ah, le Tiaï, je le connais, c'est celui qui est rappé sur le morceau de Bone Crusher.
Avec d'accord. Son petit, voilà. Ah, ok. Oui.
Et puis en plus, il va commencer à avoir une petite signature, tu sais, une petite signature avec son petit bonnet sur le côté.
Ouais, oui, bien sûr. C'est le bonnet qui tient tout seul. Là.
Ouais, alors ça, franchement, c'est un mystère.
Moi, je connais parce que je porte les bonnets aussi. Enfin, il commence bien le matin, mais après, bon, bah, le bonnet vit sa vie. Et effectivement, il peut se retrouver sur le côté de la tête. Voilà. Donc, suite à ce single, qu'est-ce qu'il fait, Thierry ?
Il a la bonne idée de signer chez Atlantic. Et Atlantic Records, c'est toujours une bonne idée de signer chez Atlantic.
Alors, je me permets de dire non. Little Brother avait signé chez Atlantic.
Oui. Mais ils avaient sorti un bon...
Bah, ils ont sorti le The Minstrel Show, mais Atlantic n'a pas compris.
Ouais.
Ça, trop intelligent pour passer sur BET, hein. Attention. Ouais. Bref, encore une fois, on connaît notre sujet.
Oui, c'est vrai. Exactement, t'as raison.
Donc Atlantic, pour moi, c'était une maison de disques maudite. Mais toi, tu me dis que c'est bien. Alors, ok, c'est bien.
Pour lui, en tout cas, c'était bien. C'était un bon move. Okay. C'était vraiment, il a eu, parce qu'Atlantic Records, à l'époque, je pense qu'ils avaient besoin d'un gros headliner.
Ouais.
Et il est arrivé, et il est devenu la star du label Atlantic Records. Ils ont vraiment mis tous les moyens pour que ça puisse cartonner. Donc, il a la chance de sortir son deuxième album, chez eux, en 2003, qui s'appelle Trap Music, avec l'extrait Rubber Band.
Les cœurs d'enfants là,
incroyable.
C'est pas la période avec Jay-Z qui faisait Hard Knock Life et toutes ces conneries là.
Certainement.
C'était en même temps,
oui, je pense, oui, ça sort de 2003. Alors, ce qui est drôle, c'est que ce morceau, donc il parle du trafic de drogue.
Évidemment.
Il parle, tu sais, comme tu disais, les élastiques.
Les élastiques qui.
Et puis t'as les voix d'enfants. La 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 la. C'est incroyable.
La preuve que l'Amérique s'en bat les couilles, hein, parce que cet album, donc complètement immoral, il va faire combien ?
Et bien sûr, il va bien cartonner, parce qu'il va faire le premier million, c'est son premier million, un million de ventes. Et
Prends ça, Arista.
Oui, voilà, exactement. Prends le cash.
Il fallait y croire.
Parce que je pense que c'est un album qui n'a pas dû coûter extrêmement cher, tu vois, à l'époque, tu vois, il n'y a pas trop de feat.
Tu l'as sur la table, aussi.
Oui, il est là, le Trap Music.
Ah bah il porte tout sur le côté, hein, casquette, bonnet, chapeau, tout.
Même lui il est un peu sur le côté.
Ouais, là. C'est vrai.
Ouais. Et
Ah oui, je pense qu'il a pas coûté très cher.
Ah ouais. Et alors c'est intéressant, c'est ça, l'album s'appelle Trap Music, parce qu'il y a toujours un dilemme. Est-ce que T.I. c'est le père de la Trap Music ?
On rappelle que la trap, enfin...
Il y a plusieurs significations de la trap.
Une trap house, normalement, c'est la maison où tu prépares et tu vends le crack. Hein,
exactement, cooking crack.
Bah ouais, donc la trap house normalement c'est un taudis dans lequel, enfin qui est uniquement utilisé pour préparer la drogue. De là ils ont sorti la musique trap qui accompagne un peu cette activité, ce qui sous-entend quand même qu'il faut quand même dealer de la drogue pour faire de la trap. Ça me semble évident.
C'est QFD, ça veut dire avec des voix d'enfants. La 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 la.
Alors ouais, est-ce que T.I. est réellement le père de la trap?
C'est questionnable, c'est questionnable.
La trap telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou en tout cas telle qu'elle a explosé après avec Chief Keef et tous les petits cons qui savent pas rapper là, et puis les rappeurs de SoundCloud, c'est une vraie question. Moi, je serais tenté de dire bah ouais.
Oui, en tout cas, c'est un des parrains, c'est un qui a démocratisé complètement la trap music.
Okay.
Il avait la légitimité, il a commercialisé. On peut vraiment dire que c'est pas le père, c'est un des parrains de la trap music.
Un des parrains. Ouais. Ok.
Voilà. Prends soin de ton filleul, Thierry. Parce qu'on des fois, il part en couille. Hein.
Bah alors justement, qu'est-ce qui se passe après ça, du coup ? Donc là, le mec, il est assis sur 1 million de ventes.
Pas mal, c'est un bon...
Normalement, c'est tranquille, voilà, tranquille. Il est à l'abri, là.
Et c'est ça, un des problèmes de Thierry, c'est son comportement. Lui, je pense que sur son bulletin scolaire, c'est de marquer élément perturbateur, attention, bon élève, mais discute, parle beaucoup. Parce que, oui, il va y avoir énormément de problèmes judiciaires, Thierry. Et on va en discuter plus longuement. Là, ça va être son premier cas, puisqu'il va avoir une violation of probation. Alors vous allez voir, on va vous dire les termes parce que c'est rigolo de les enchaîner comme ça.
Violation of probation.
Déjà ça rime.
Voilà. Donc il a violé sa conditionnelle en fait.
Voilà, exactement. Le terme exact c'est violation des conditions d'une libération conditionnelle.
Ouais. Non mais alors ça veut dire que pour qu'il viole sa conditionnelle, c'est qu'il s'était déjà fait serrer.
Exactement. Comme on expliquait au début, il dealait pas mal et puis il s'est fait prendre les allers-retours et donc il devait avoir une conditionnelle qui traînait. Ouais. Classique. Et puis là, il est sorti de chez lui, il a fait le con dans un street club et puis il s'est fait choper, quoi.
Ok.
Donc il va être enfermé à la prison de Cobb County. Et ce qui est marrant, c'est que il est tellement ouf qu'il va faire un clip là-bas. Un clip interdit.
Comment ils font rentrer le matos, moi?
Je sais pas. C'est ça qui est complètement incroyable.
Parce qu'on est en 2004.
On est en 2004.
Ça filmait pas en 1080p.
Pas du tout, tu vois. Donc il arrive à faire un clip. Donc si vous cherchez sur Internet, vous pouvez voir. Et ça va faire un scandale, hein. L'État, je sais plus, je crois que c'est
la Géorgie,
ouais,
encore.
Voilà. Ouais. Donc ça va carrément devenir un sujet d'État, quoi. Ils vont dire, mais comment T.I. arrive à faire un clip dans une prison? Tu vois. C'est là que tu te dis, c'est combien fou, moi, d'enfêlé, tu vois. Et au même moment, il va commencer un clash. Donc avec un autre rappeur du Sud qui marchait bien à l'époque, Lil Flip.
Lil Flip, qu'est-ce qu'il faisait, Lil Flip?
Lil Flip,
Parce que moi j'ai bien Lil John.
Ouais.
Ton chien, il s'appelle tous.
Lil Flip, il a un très très gros morceau. Je ne l'ai pas là, mais on le mettra en playlist plus.
Histoire d'illustrer. Ouais. Mais donc c'était un mec du Sud.
Un mec du Sud qui cartonnait, qui avait vraiment la côte du
mais
moment.
Plutôt ambiance Lil John, titre non, que pour les clubs ou...
Non, un peu plus radio. Un peu plus radio on mettra le lien. Et là, donc, le terme anglais, donc il est en bif avec lui.
Ouais.
Tu vois, donc en bif, bon, mettre en bif, c'est-à-dire être.
En embrouille.
En embrouille, voilà. Et tiens, il va trouver l'expression, il va faire ouais, mon bif, c'est le filet mignon. Donc il va faire un filet mignon bif avec T.I. avec Lil Flip.
Donc c'est un bif, mais un bon morceau, quoi.
Voilà, exactement. Ouais. Et ça c'est typiquement américain aussi, tu vois.
Et ça s'est réglé, ça, ou, enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de
noir. Il était en prison, hein, en plus.
Ah oui, parce qu'il biffe quand il est en prison.
Il y avait un mec qui tourne à la radio à sa place, il a fait, t'as pas vu mon clip? Je parle de toi.
Donc ça, c'est en 2004.
2004, okay. Voilà. Mais il est temps quand même, une fois sorti, de travailler sur le troisième album.
Ouais.
Parce qu'après un beau succès, un million, on travaille sur un
album. Ça serait dommage de pas battre le fer pendant qu'il est chaud.
Et il va sortir dans ce troisième album en novembre 2004, qui s'appellera Urban Legend, avec le titre
Bring Him Out. Bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out. It's hard to yell when the barrel's in your mouth. Come on. Bring 'em out, bring 'em out. Hey. Bring 'em out, bring 'em out. Bring 'em out, bring 'em out. Bring 'em out, bring 'em out. Encore? Ah le bâtard!
Eh oui!
Mais attends, il a recyclé son couplet de son premier morceau. Il se fout de ma gueule. T.I.P. Live from the VIP. Bon alors, la prod. J'ai même pas besoin de voir le nom du mec pour savoir qui c'est. Je veux dire, il y a des sifflets d'arbitre de football, c'est n'importe quoi. C'est la fanfare.
Ouais.
Ouais, mais toujours. Comme on disait avec Memphis Bleek, Swiss Beats.
C'est vraiment le son du moment, quoi. C'est le 2004-2005.
Swiss Beats, il a trouvé des sifflets d'arbitre, des tambours, des trompettes, et lui, c'est tous les jours, il est en Super Bowl. Hein.
Hey, il devait être relou quand il y avait, tu sais, des marching bands dehors, il devait être avec son micro. Attends, vas-y, refais le bruit, s'il te plaît.
Non, mais t'imagines, parce que pour que ça sorte. Le mec, il a dû le taffer.
Ouais,
bah t'imagines le nombre de gens qu'il a dû user dans le studio avec. Attends, je le remets. C'est horrible. Ça marche.
Mais ça marche. Et ça va vraiment cartonner.
Ouais.
Le Bring Him Out, ça va devenir un hymne avec le gros sample de la voix de Jay-Z au début.
Ouais.
Bring Him Out. Donc, gros carton. Gros carton. Il fera 7e au Billboard. Il va faire encore 1 million d'albums.
Ah, c'est le million CD vendu man.
Voilà, exactement. Et là, ça veut dire à chaque fois, tu recaches. C'est comme si t'es. Hop. Toi que tu recaches, t'as le droit de remettre une pièce.
Ouais.
C'est vraiment.
Tiens, prends ça encore, Arista. Arista, il devait quand même se mordre les couilles, hein, parce qu'il le lâche à 200 000, le mec, il fait 2 millions sur les albums qui suivent.
Ah oui, ça l'énerve. Il a dû jubiler, il devait jubiler. Tiens, il devait à chaque fois passer devant les bureaux d'Arista. Ça va, vous? T'as entendu mes coups de sifflet, là? Et mes voix d'enfant? Non, très fort, très fort. Donc, alors. Et ce que j'aime bien, c'est cette dualité, c'est-à-dire que c'est un vrai thug. Tu vois, il fait des allers-retours en prison, tout ça. Mais il va poser à chaque fois sur les morceaux les plus corny et les plus cheesy de R&B. Ce qui serait impossible en français, on pourrait pas, tu vois, à ce moment-là, par exemple. Donc il va sortir, il va poser sur le Soldier de Destiny's Child, qui va être un tube interplanétaire, quoi. Et ça va...
Mais Destiny's Child, c'est pas trop cheesy, hein.
Mais ça reste un... Si on prend par rapport à T.I.
Cheesy, c'est genre Tania, Maria Carey...
Ouais, bah oui, bien sûr. Mais après, il le fera, ça.
Oui, en plus, il le fera. Non, mais tu vois, enfin, ouais, bon, ok.
Ce que je veux dire, c'est la dualité de dire, ouais, je pose avec un morceau de
Timmy Child. Il fait des morceaux de tag, et puis après, boum, un petit morceau R&B.
Voilà, histoire de cacher. Et ça, ça va lui faire le renommée de ouf, parce que ce morceau, il va vraiment tourner le Soldier, et en plus, c'est un très bon couplet de T.I. Et ça sera donc en 2005. Et au même moment, parce qu'il se dit, tiens, je pose avec les Destiny Child, mais je vais créer un petit crew avec mes gars du.
Ah oui, c'est la mode.
Voilà. Avec mes gars de la street.
D'accord. Et là, c'est ce qu'on appelle. Alors, c'est encore trois consonnes.
Voilà. on devrait faire des jeux. Des jeux où on vous dit des consonnes et vous dites le mot. Sachant que c'est toujours à peu près les mêmes mots. Hein.
Oui, bah oui, en plus. Hein. Bon, là, c'est le PSC. Voilà. Pour. Pim Squad Click.
Voilà, Pim Squad Click.
C'est-à-dire que squad et click, c'est déjà la même chose. Voilà. Mais ok. Donc, voilà, la clique, la clique de jamais. L'équipe des macros. Voilà. Donc, voilà. La clique de l'équipe des. La clique du squad des Mac, ok.
Donc il fait ça avec Bing Country King. Très bon rappeur.
Ouais.
Sea Road et Mac Boney, ou Boney, je sais plus trop.
Bah ouais, mais là, ils sont 5 sur la pochette, donc il y en a un qui.
Ouais, il y a les deux. Je crois qu'il y en a un ou deux autres. J'ai pas leur blaze, là. C'est. Je sais plus trop, je t'avoue là.
Ouais,
comme
bah
ça,
c'est ouais. Pas grave, ouais. Tant pis pour eux. Alors attends, je regarde les featuring. Il y a un mec qui s'appelle Young Dro, qu'ils ont dû payer cher parce qu'il est sur tous les feats. Feat Young Dro, Young Dro, Young Dro, Young Dro. Il y a un morceau avec Silo, ouais. Silo Green de Goody Mob, qu'on a connu après en tant que Gnarls Barclay,
ouais.
Avec Danger Mouse, et puis Young Jeezy, qu'on connaît tous.
Comme une life from the thief.
Oui, donc cet album de Pimp Squad de Click, donc ça s'appelle 25 to Life, oui. Donc 25 ans ou perpète.
Voilà.
Voilà, ça annonce quand même relativement la couleur. C'est bien, hein, parce que les mecs savent ce qu'ils ont cours.
Voilà, exactement.
Ça les empêche pas de se faire péter, mais au moins ils savent pourquoi ils tombent, hein, donc c'est cool. Ouais. Et alors ça marche ou pas?
Ça marche plutôt pas mal, parce que pour un album de Cruz, parce que souvent ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que les rappeurs, ils font un carton, ils font deux cartons, il y a leurs potes autour qui rappent. Ouais. Et ils leur promettent toujours, t'en fais pas, on va faire un album de crew. Et l'album de crew, il marche des fois moins bien que l'album de la star. Mais ouais. Là, c'est un album qui va plutôt bien marcher, puisqu'il va faire ce disque d'or, 500 000.
Pas mal.
Quelque chose qui, tu vois, qui.
Sachant qu'il y a que lui en headliner, ouais. Puisque oui, tous les autres, exactement. C'est des stricts inconnus.
Ouais, bien sûr, complètement. Pas complètement, mal. Complètement. Et bon, il va avoir un gros, gros, gros titre, et avec un morceau qui va s'appeler I'm a King, et je vous laisse deviner la production. Provisions for the click and continue keeping it pimping. Where the crack was in the house, the record sale through the ceiling. So say what you want, do what you please. But for fun, I shoot 22 from your shoe to your knee. I run a record label and a crew of G's. So niggas are coming look for you if I sneeze or even breathe a wrong way. Bah, c'est vraiment celui-là. Hein. Là. Alors, vous aurez reconnu peut-être.
Oh oui! Oh oui!
Lil Jon qui a recyclé son Usher. Yeah.
Oh oui! Ouais. En fait, c'est.
Il a fait
sauf que là il a coupé les notes mais elles sont toutes là. Ok, bravo Lil Jon. Ouais. Bah, l'essentiel c'est que ça fonctionne.
Exactement, c'est ça, c'est le résultat qui compte, hein. Et donc voilà, c'est un album de crew qui va plutôt bien marcher, qui va encore mettre du crédit à T.I. parce qu'il fait Soldiers d'un côté avec les Destiny Child et Disque d'or avec son crew avec le PSC.
Ouais.
C'est plus
mais ça, mais ça l'empêche pas, n'empêche de.
Eh ben, de faire des bêtises.
Eh oui.
Eh oui, parce qu'on peut pas le tenir, le T.I. Et il aura quelques soucis du judiciaire, cette fois-ci pour Cocaine Distribution et Possession of Marijuana.
D'accord. Ah oui, donc, alors là, je vois qu'il s'est fait péter.
Voilà, en
97-98.
Et il doit payer en 2005.
Il doit faire sa peine en 2005. C'est sympa, ça. Ça veut dire que t'es condamné et en fait, tu tires ta peine. Ah, mais il y a un film comme ça. Un film avec Joaquin Phoenix où il doit faire sa peine. Et il fait une dernière soirée avec tous ses potes pour dire je me casse en prison. We Own the Night ou un truc comme ça. Il était très bien ce film.
Ah, j'ai pas vu moi, j'ai pas vu celui-ci. Ouais, bah, voir. On vous le mettra aussi.
Donc il fait sa peine 6 ans après les faits.
6 ans après les faits. Alors là, je pense que c'est une question d'avocat. Je pense qu'il a eu des très très bons avocats.
Ouais.
Mis par la maison de disques, Atlantique, qui l'a bien caché sur lui.
Ouais.
Ils lui ont mis des très bons avocats parce que tout ça va se transformer. Il devait faire un mois ferme et il va faire que quelques mois de travaux communautaires. Parce que pendant ce temps-là, il va travailler sur un nouvel album et il va travailler sur un album énorme, sur un vrai cataclysme, moi j'appelle ça. C'est l'album King.
Ah, le sample, ça c'est du Crystal Waters qui était connu pour un morceau qui s'appelait Gypsy ou Gitanian Woman ou je sais pas
Gypsy
quoi.
Gypsy Woman, ouais.
Gypsy Woman, mais on disait la daddy, la dada, voilà. Hein, parce qu'elle gueulait ça pendant tout le morceau. La daddy, la dada, la daddy. Donc là, le sample, il l'a ralenti. Parce que la bien musique originale tourne ralenti. Un peu plus vite. Et bien ça, ralenti. C'est un turbo carton.
Ouais, ça, c'est un turbo carton.
Parce que même moi qui suis allergique au sud, bah, j'ai dit, putain, c'est fort. Donc c'est que tu vois il... et en plus comme c'est un morceau qui a aussi tourné vachement en Europe, l'original a tourné vachement ouais, en Europe. Nous, ouais, du coup ça parle à tout le monde, ouais, tous les mecs qui l'ont entendu ici, ils ont fait ah putain.
Ah mais grave, ça nous a rappelé
la daddy la dada,
exactement.
Crystal Waters, ça je rappelle meilleur nom de scène. Crystal Waters, ouais. Parfait.
Donc ça va être très ça va lancer l'album parfaitement et il va remettre un gros coup de matraque derrière qui va faire que l'album va être vraiment un carton avec ce morceau.
Ouais, c'est pas la version censurée. Parce que là, il dit qu'il a un 44 chargé. Hein, et dans la version censurée, en fait, ils mettent des coups de feu à la place, ce qui est complètement con. Mais... Bref. Ah, What You Know. Alors, tu vois ça, ce morceau-là, What You Know, c'est pour quelqu'un qui me dirait, mais au fait, c'est quoi la trappe ? Bah, je lui fais écouter ça.
Ouais, c'est vrai.
Juste là, si tu peux me caler la fin. Ah.
Ah.
Ah putain, c'est génial. Je sais pas ce que c'est cet instrument, ouais, c'est un pas. Clavier à la scie sauteuse, voilà, je sais pas.
Clavier cuivre.
Ah putain, c'est génial, c'est très ronflant. Moi perso, j'adore.
Ouais, moi aussi, j'adore.
Et c'est... du coup, on n'est pas les seuls à adorer.
Ouais. D'ailleurs, t'as remarqué qu'il se pose beaucoup de questions sur l'album, parce que après, ouais. What You Wanna, c'était What You Know.
What You Know, ouais. Enfin, c'est même pas des questions, parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation.
C'est vrai, en plus, c'est des questions affirmations, tu sais, comme c'est très bien chiant, tu vois. Alors là, c'est gros carton, c'est disque d'or première semaine. Low Bleak met une carrière pour. Ouais. Low Memphis Bleak mettra une carrière pour
arriver à ça, ouais.
Et il va rentrer surtout dans le panthéon des rappeurs puisqu'il va gagner le Grammy Awards pour le meilleur album rap de l'année, pour meilleur
King.
Solo.
Pour King. King qui était donc, on le rappelle, son
quatrième album.
Ouais, mais t'as inclus l'album collectif ou
non?
Ah non, c'est vraiment en solo.
Ah
ouais, non, son quatrième album. Comme quoi, parce qu'on dit souvent que dans le rap, il faut, enfin, en général, ton classique, tu le fais au premier essai, voire Nas, Snoop. Ouais.
Et il y en a qui courent même après encore.
Et ouais, et on t'en a qui arrivent jamais, mais lui c'est au quatrième qui fait un carton. Ah ouais. Donc là l'album au total, Yvan, il fait quoi ?
Celui-ci va faire 2 millions, il va doubler. Double up.
Oh, prends ça, Arista. Ouais.
Tu vois, c'est voilà. Et il va continuer bien sûr à côté ses petites activités R&B parce qu'il va faire le My Love de Justin Timberlake.
Ah bah le My Love qui c'est évidemment un truc, et en plus son couplet il défonce.
Ah il défonce.
Sur le My Love de Justin, ouais. C'était sur quel album ça ?
Sur l'album de
Future Sound de Future, non, c'était Future Sound Love,
ah oui,
Future
c'est
Sex
ça.
Love Sound, je sais pas quoi. Ouais. Et c'était produit par
Timberland.
Ouais, OK. On l'a pas celui-là. Hein.
Non, on l'a pas celui-ci.
Eh ben, c'est dommage parce qu'il est très bien.
Mais on mettra tout ça dans la playlist, les morceaux R&B, tout ça en plus pour si vous voulez aller écouter tout ça, on va pas tout mettre malheureusement.
Donc là le mec quand même, il est sur une trajectoire, je veux dire, il est connu du grand public, le gars gagne des Grammy. Je rappelle que aux États-Unis, il suffit d'être nominé pour un Grammy et t'as le droit de le mettre à côté de ton nom pendant 20 ans.
Complètement. Ouais.
Hein, genre nominated for les Grammys. Hein. Ah, ça veut dire que t'as même pas gagné, mais tu le mets. Hein.
Ah, bien sûr.
Grammy nominated producer. Tu vois. Lui, il l'a eu.
Il l'a eu. Donc là, il est vraiment.
Donc là, il est sur les rails. Et je parle pas des rails de coke. Je veux dire, là, il est sur.
Non,
les... Ok. Il est sur des rails. Tu vois, la route du succès.
Voilà. Et il va continuer puisque son cinquième album qui va sortir en 2007. Alors ça, c'est un album concept. C'est un album qui va s'appeler T.I. versus T.I.P.
Alors là, le mec, il joue sur la dualité.
Classique.
Voilà. Tu vois, T.I., c'est le mec un peu propre, artiste.
Voilà, tu sais, la veste blanche avec les lunettes foncées, toujours qu'on
peut voir. Type, c'est le mec du quartier. Le
bonnet sur le côté.
Bien sûr.
Voilà. Alors, ça, ils le font tous au moment, les rappeurs.
Ouais, Slim Shady, machin truc.
Exactement, la dualité. Est-ce que j'hésite? Oh là là. Est-ce que je fais un truc street, là, ou est-ce que je fais un truc clean? C'est, Et le premier single, il va s'appeler Big Thing Popping. Et on va retrouver là encore une production d'un gars qu'on connaît.
Ouais,
came up the scale, let's do it. Do it, do it, do it, what you waiting for? Cause I do it, I do it, what you waiting for? Do it, do it.
Alors, avis comme ça, sans même regarder qui est le producteur, parce que je sais que ça va m'énerver, je trouve que aussi bien au niveau du flow que des instruments utilisés, enfin instruments, que des bruits utilisés, ça ressemble vachement au morceau qui était dans le film Hustle and Flow, qui parlait d'un mac de Memphis qui voulait faire du rap, qui était joué par Terrence Howard, et le morceau s'appelait It's Hard Out There for a Pimp, et je trouve que c'est exactement ce son-là.
Ah bah c'est bien possible parce que c'est Manny Fresh à la prod.
Manny Fresh, donc c'est les mecs de l'équipe de Baby, les Cash Money Millionaires, tout ça. Mais ça, c'est la Nouvelle-Orléans.
Comme quoi. Alors, on peut rarement faire plus sudiste que ça, que ce son-là. Ouais, ce son-là, il a tous les ingrédients.
C'est-à-dire que moi, j'entends ça, je sais même pas comment le mec se dit, hey, là, j'ai une place pour rapper.
Ouais, c'est
tellement c'est chargé, en fait, il y a trop de trucs partout.
Complètement. C'est vrai. D'ailleurs. C'est que du gimmick, hein, c'est que du. Oui, c'est, on lève les bouteilles, alors c'est ça le titre, on lève les bouteilles, on les secoue, on lève les bouteilles, on les secoue. Donc, ça va être le début des albums que j'appelle des albums featuring, qu'on en parlait la dernière fois, c'est-à-dire il va commencer à inviter beaucoup de monde sur cet album. Sur celui-ci, il y a Jay-Z, Busta Rhymes, Wyclef, Nelly, Eminem.
L'album qui coûte cher.
Voilà. Et donc, à la prod, bon, donc, il y a Eminem, Manny Fresh, Les Runners, Just Blaze, Danja. Donc, c'est vraiment. C'est ce que moi j'ai reproché à T.I. À partir de maintenant, à partir de cet album-là, il va faire des albums, un titre, un feat.
Ouais.
Et surtout, là, on va le voir surtout sur le prochain. Mais avant ça, avant de sortir le prochain album.
Attends. Combien?
Ah, c'est vrai, combien?
Combien?
Combien ils ont caché, hein, s'en souvient. Ben, ils ont caché un peu moins, figure-toi. Ils ont fait 1.5.
Ouais, par rapport aux deux, mais par rapport aux 200 000 d'Arista, on est toujours au-dessus. Voilà. Prends ça, Arista.
Alors, j'espère que vous faites le calcul, hein, parce que à la fin, on fait le total.
Ouais, quand même, là, à la louchette, hein, en deux albums, on en a à 3,5 quand même, plus les 500 000 de PSC, ça fait 4 millions sur trois albums, là.
On parle des États-Unis, hein.
En plus.
Sachant que là, il commence à vendre. Je pense que l'album King, il a du bien vendre en Europe.
Oui, l'album King, il a surcartonné partout,
Et donc là, il trouve quand même le temps encore de se faire plaisir avec un petit morceau avec Mariah Carey. Le morceau I'll Be Loving You Long Time. Donc,
OK.
Donc vous verrez avec un couplet de. Avec une Mariah Carey en forme qui fait.
Ah bah ça, elle est toujours en forme, ouais. Mariah Carey, en général.
Et T.I. qui sort un couplet intéressant au bord d'une falaise. Bon, bref. Et elle est au même moment, ce qui est drôle.
Alors attends. Parce que je crois que les feats avec Mariah Carey, t'es obligé d'être ridicule dans le clip.
Ah, c'est bien possible.
Parce que si T.I. il sort un couplet au bord d'une falaise, moi je me rappelle de Crazy Bone de Bone Thugs and Harmony avec son outfit complet mexicain, avec incluant le sombrero.
Ouais. Ça, il a accepté quand même.
Eh ben, il a accepté, ouais. Mais enfin, là, j'ai regardé le clip il y a pas longtemps. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais à quel moment tu dis, OK, c'est bon. Ouais. Une ville mexicaine, un sombrero et un poncho en laine. Allez, vas-y, banco. Pour des mecs de Cleveland, mais OK, très bien.
Bref. Ah, c'est Mariah Carey. Donc, alors, ce qui est bien, c'est que juste après ça, il va se retrouver under house arrest, c'est-à-dire assignation à domicile.
Ah.
Et cette fois-ci, c'est federal weapon and possession charges. Ça veut dire donc possession d'armes, en gros.
Interdite par l'État fédéral.
Voilà, exactement. Donc voilà, bah, il s'est dit, j'ai fait la drogue, maintenant je vais faire les armes. Donc toujours malin, le type. Et donc il va se retrouver chez lui, et il est bloqué, il ne pourra plus sortir. Et pour la première fois, il va écrire, et il le dit lui-même, il va écrire sur papier ses lyrics. Parce que d'habitude, ça c'était la mode, ça je le voyais souvent aussi aux États-Unis, ils écrivaient tous sur leur BlackBerry les paroles.
Ouais. C'est vrai.
Donc ils écrivaient sur leur BlackBerry et puis ils arrivaient en studio et puis ils faisaient défiler le BlackBerry et puis ils récitaient. Et
là, ils écrivaient pas comme Jay-Z,
voilà,
ou Biggie, ils faisaient tout tête.
Exactement. Voilà. Ce qui est impressionnant en studio, c'est vrai que c'est impressionnant.
Oui.
Après, c'est pas dit en plus d'une richesse.
Ah bah tu vois un Jay-Z qui te débite des morceaux.
Jay-Z, ça c'est.
Fait le bâtard.
Ouais,
il joue aucune note. Comment il a fait?
Jay-Z, de toute façon, c'est le maître pour ça.
Ouais.
C'est considéré comme le maître. Et donc, il va écrire sur papier. Donc il y aura plein de petits morceaux de papier et l'album va s'appeler Paper Trail, ça veut dire bout de papier.
Alors Paper Trail aussi, c'est ce qu'on utilise pour remonter une piste de crime financier.
Aussi,
on suit le Paper Trail. Ouais, voilà. Okay. Donc il y a un double jeu de mots.
Tu vois d'ailleurs sur la pochette, tu vois, il mettra tous les petits.
C'est que les
oui. Genre, il fait.
Ah, c'est joli.
C'est mignon.
Ah oui, donc il fait sa tête en mosaïque à base de petits bouts de papier. Ouais. Eh ben ça, tu vois, quand tu compares à la DA des albums de 50,
ouais, complètement. Hein, ouais, c'est vrai.
À la même maturité de carrière. Non, là, le mec, il mérite. Je ne sais pas combien il fait, mais il mérite.
Et donc, il va sortir cet album qui sera son plus gros album, avec notamment ce titre.
Hey Jill, You know them old sugar daddy. They be tricking, they tell them girls.
I said you can have whatever you like. You like. I said you can have whatever you like. You like. Yeah, yeah. Stacks on deck, Patron on ice. We can pop bottles all night, baby. You can have whatever you like. You like. I said you can have whatever you like. You like. Yeah, yeah. Late night sex, so wet, so tight. I guess a jet.
Je pense que ce morceau, tout le monde l'a reconnu, c'était joué sur Skyrock à l'époque, c'était vraiment, voilà, c'était la petite, c'était la grande vague de T.I., c'est sa plus grande période, c'est là où il va vraiment dominer. Je pense que à ce moment-là, c'est le numéro 1, 2008-2009, c'est le numéro 1 du rap, du hip-hop américain. C'est un album qu'il va développer sur 2 ans, avec 8 singles différents. Donc il y a ce single-là, et son plus gros single, son plus gros tube, donc le morceau avec Rihanna, on va pas le mettre parce que on va vous... On vous épargner ça. C'était le fameux morceau Live Your Life avec le My Life.
Non.
My Life.
Ah, c'est ça?
Eh oui. De la reprise de Ozone.
Oh putain.
Voilà. Donc c'est un morceau de T.I. avec Rihanna.
Ouais, donc, mais c'est pas ça qu'on veut entendre nous sur cet album. Voilà.
Attends, mais ce single sera son plus gros succès, sur sa plus grande vente. C'est un morceau, même ma mère le connaît. Ce morceau-là. Alors, c'est pas dans quelle version elle connaît. Est-ce qu'elle connaît la version romaine ou la version. Tu sais, ou la version de la reprise, c'est le remake américain. Je sais pas, ou hollywoodien, tu vois. Je sais pas. Donc, il y aura le Dead Gun avec Timberlake, il y aura le What Up, What Happening.
Je suis dans le livret de l'album, et oui. Contains samples of Dragosta Dinte. Performed by the Ozone. Dans un titre avec écrit featuring Rihanna au-dessus.
Ah ouais, mais ça va tellement cartonner, tellement cartonner, tellement cartonner. Et dedans, il y a mon morceau préféré, moi, mon petit coup de cœur, c'est Swagger Like Us.
For the wordplay, Kanye's it for diversity and me for controversy. Y'all my verse picture perfect on this bitch, serving purpose. You ain't living what you're kicking and you're worth it. Looking from the surface, it may seem like I got reason to be nervous. Then observe my work.
Alors, moi, c'est ce que j'appelle un morceau. Lui, faut le payer quand même. Parce que quand tu vois les feats, donc c'est Swagger Like Us featuring Jay-Z, Lil Wayne et Kanye West. Avec une prod de Kanye, et on a reconnu dans la prod qui samplait Paper Planes de M.I.A.
M.I.A., exactement.
Voilà, l'artiste londonienne. Mm. Eh ben, ça fait plaisir.
Ouais. Donc, t'imagines le line-up, les 4 T.I., Lil Wayne, Jay-Z et Kanye West. Ben, je veux dire, c'est
ultime. T'as intérêt à en vendre pour rattraper la sauce parce que là, ton budget vient d'exploser. En même temps, tu vois, j'ai vraiment le livret en main. C'est un dictionnaire, le truc. Ouais. C'est-à-dire que le livret de cet album, là, tu vois, c'est l'intérêt d'acheter. L'intérêt d'acheter un album. Il y a carrément un album de photos. Voilà. T'as vraiment. Là, tu comprends pourquoi t'as payé ton album à la Fnac. Ils se sont pas foutus de ta gueule. Donc, ça, combien il en vend?
Ça, on est sur du. Entre 3 et 4, on va dire 3,5.
Arista.
Et là, c'est. Oui, bah, ça
Arista,
c'est un album,
tu entends?
Oui.
Putain, on va dire que là, en un seul album. Il a fait les ventes des 3 précédents qui étaient déjà pas dégueulasses.
Voilà, déjà pas dégueulasse. Donc là, il est vraiment, il est au top, il est au summum. Il sera vraiment.
Je pensais pas, tu vois, je pensais pas que le mec, il était à ce point-là, en fait.
Eh oui, c'est ça qui est l'ambiguïté de la chose, c'est qu'en France, T.I., personne connaît T.I., c'est très peu de personnes. Les gens savent que c'est un rappeur américain.
Ouais, personne connaît sa musique, en fait.
Personne connaît vraiment sa musique et son œuvre, elle est énorme.
Et ce qui est fort, c'est que moi, en tant que non-amateur de ce style de musique, les gens vont se dire, mais il écoute vraiment du rap, ce connard, il aime rien.
Et pourtant, s'il savait,
T.I., c'est surtout l'album d'avant, donc King, qu'on a entendu avant, que moi j'ai retenu. C'est-à-dire que celui-ci, moi je l'ai quasiment pas écouté.
C'est un album Skyrock, c'est tous les morceaux tournés sur Skyrock, il tournait pas genre une fois dans la journée, il tournait autant que, je sais pas, je vais dire à l'époque, qu'est-ce qu'il pouvait tourner à l'époque, en 2008-2009 en France, qu'est-ce qu'il pouvait tourner à l'époque
Un truc français?
Oui.
Jennifer
from the Block.
Voilà, Jennifer, je vois ton t-shirt. Il a un t-shirt, donc pour les gens qui le voient pas, évidemment, c'est une pochette façon Pen & Pixels qui faisait les pochettes de Master P, donc c'est très bling bling, sauf que c'est Jennifer la nôtre, qui tient un flingue et écrit Jenny from the Block en dessous en or. Voilà, c'est magnifique.
C'est mon t-shirt le plus sudiste que j'ai pu trouver.
Le tout sur un ciel violet avec des éclairs. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Je pense qu'on va le prendre en illu pour cette émission parce qu'il est magnifique.
Et donc voilà, donc il écrase tout. Alors,
il a 3,5 millions sur un album. Je pense que tu parles même plus avec des rappeurs en fait.
Non, là, tu te laisses.
Tu parles avec des pop stars.
Voilà, exactement. Ouais. Et ça n'empêche que quand même, bon, Il doit soit se sentir si bien avec le succès parce qu'il sera incarcéré, enfin pas incarcéré mais interné plutôt dans une maison de réinsertion sociale. Ils appellent ça les halfway house.
Ah, attends, t'as besoin de te réinsérer socialement quand t'as vendu 12 millions d'albums.
Exactement. C'est-à-dire qu'ils vont l'obliger, les juges vont l'obliger à aller se faire soigner parce qu'ils considèrent que c'est pas normal d'être une star, de vendre des millions d'albums et de continuer à faire des conneries. Je veux dire, il y a quelque chose qui mentalement qui va pas. Tu vois.
Ah oui, donc là, c'est carrément, il part en psychiatrie, en fait.
Ah, voilà, c'est léger, la psychiatrie légère. C'est-à-dire qu'ils vont lui faire certainement des diapos.
Des groupes de paroles.
Ça, tu peux faire, ça, tu peux pas faire. Ça, pistolet, pas bien. Tu vois, voilà. Et c'est comme, c'est incroyable, le mec, il a vendu combien? Il a 10 millions d'albums,
ouais,
superstar.
Il a plus de 10 millions. Là.
Et on l'oblige, tu sais, limite, aller, tu sais, quand t'as plus ton permis, aller, tu sais, regarder une vidéo dans Attention, feu rouge, arrêtez-moi, quoi.
Bon. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait.
Et donc là, il va préparer un nouvel album.
Ouais.
Ah, toujours, parce que bon, on va pas s'arrêter là quand même. Et qui va s'appeler King and Cage. Alors, le King and Cage, donc ça veut dire, ils m'ont enfermé.
Je sors de la cage.
Je sors de la cage.
Le roi sort de la cage. Voilà.
Alors, c'est un bon titre. Tu te dis, oh, c'est pas mal, tu vois. Mais malheureusement, quand il va commencer la promo de l'album, eh ben, avant de sortir, il va devoir retourner en prison.
Pourquoi?
Eh ben, cette fois-ci, il va devoir retourner en prison pour violation of parole for drug arrest.
Mais putain!
C'est-à-dire qu'il n'a pas compris! Il n'a pas compris!
Ah, donc l'album, il ne peut pas s'appeler King and Cage, parce qu'il retourne.
Exactement.
Ah merde!
Donc il va l'appeler
King and Cage.
Donc t'imagines la maison de 10. Ils ont fait toutes leurs promos sur le roi qui sort de la cage. Merde, il retourne dans sa cage. Donc il change l'album, il change le nom de l'album pour l'appeler No Mercy.
Ouais, sans pitié.
Voilà.
Ok. On sait pas à qui ça s'adresse. Est-ce que c'est à TI directement ou pas, mais en tout cas, le mec, des allers-retours aussi fréquents en prison et finit par ressortir. Moi, je pensais qu'au bout de 3 fois, t'étais parti
pour. Voilà. C'est là que tu peux te dire qu'aux États-Unis, c'est une question d'argent.
Si t'as de l'argent, c'est
bon. Si t'as de l'argent, c'est bon.
Parce qu'aux États-Unis, normalement, t'as le 3 strikes.
Ouais, exactement.
Qui fonctionne exactement comme au baseball. Mmh. C'est-à-dire que si on te pète trois fois, à la troisième, même si c'est une part de pizza, tu prends 45 ans.
Ouais, exactement. Normalement, c'est ça. Normalement, c'est... Et puis, tout le monde fait ça. Je veux dire, tout le commun des mortels, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un avocat,
mais littéralement, pour une part de pizza, tu pars 40 ans.
Exactement. Lui, après tout ça, il doit avoir tous les avocats d'Atlantic Records, qui font que bon, il va réussir à sortir. Et c'est peut-être, ça va d'ailleurs peut-être lui donner une illusion
d'invincibilité,
tu vois. Ouais. Parce que, en plus, ça doit être pour des petites conneries, parce que là, drug arrest, autant il a juste de la marijuana sur lui, il roule dans une belle voiture, c'est un black aux États-Unis, il se fait arrêter par les flics, et puis il trouve la marijuana, puis il l'arrête, quoi. Ouais. Comme c'est la continuité de. Il se retrouve en prison encore une fois, tu vois.
Donc cet album No Mercy, sorti pendant son incarcération, là.
Oui. Il va en vendre 1 million. Là,
Ça va quand même.
Ouais, bon. Ça va quand même. C'est pas un album.
Quand il est arrivé à Paper Trail et ses 3,5 millions, est-ce qu'il pensait qu'il pourrait continuer à vendre autant? Parce que là, 1 million quand tu viens de 3,5 millions, c'est un échec.
C'est un échec.
1 million quand tu viens de Memphis Bleak, c'est un super succès.
C'est un super succès. Et surtout sur cet album-là.
Donc le succès est relatif.
Sur cet album-là, il va y avoir une tonne de feats. Et je cite en vrac, c'est Kanye West, Kid Cudi, Scarface, Chris Brown, Eminem, The Dream, Trey Song, Pharrell, Drake, Christina Aguilera, Rick Ross. Tout ça, c'est sur l'album.
Tout le monde.
Là, tu vois. Donc, imagine la conception, le prix de l'album. Ouais. Forcément, tu vois. Donc là, Atlantic Records, je pense qu'ils se sont mangés celui-ci. Il peut pas faire la promo. Toi, il est incarcéré. Il peut pas faire la promo. Donc, il se retrouve emmerdé. Et il va sortir en août 2011. Et moi, je me rappelle, j'étais aux États-Unis quand il est sorti.
Sachant qu'il s'était fait péter en 2010.
2010, voilà. Donc, il va tirer belle année. Ouais, cette fois-ci, il pourra pas sortir vraiment. Il va vraiment tirer quasiment une année. Et il va sortir. Et donc, les Américains sont forts. La Redemption. Reality show. Tu vois, réalise ce short TI. Ah, je sors de prison. Regardez, voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et c'est un show qui est énorme. Si vous pouvez le voir sur Internet, c'est sur VH1. C'est, donc le reality show TI1, c'est, qui s'appelle, je pense, Trouble Man aussi,
À vérifier.
Mais c'est énorme parce que tu vois toute la rédemption de TI qui, tu vois, ça le fait chier, quoi. Tu vois, qu'il soit là à filmer. Et il est obligé, il est là, il fait, ah, ça va, il va avoir les enfants à l'école. Tu vois, il fait tout ce qu'on lui demande de faire, en fait, tu vois. Parce que là, la limite, elle est limite franchie, toi. Comment je peux dire, tu peux vite tourner d'un côté où t'es trop extrême pour les Américains, qui vont dire bon, lui, il est quand même trop extrême, tu vois. Il sort. Comment on peut justifier le fait d'être millionnaire à ce point-là et de faire autant de conneries.
Ouais.
Donc, il faut faire attention à ce moment-là. Et là, c'est là qu'il va prendre son surnom de Trouble Man. Alors, en français, on pourrait dire l'homme troublé, mais c'est pas du tout ça.
Non, c'est plutôt l'homme des problèmes.
Voilà, exactement, l'homme qui fout la merde. Ouais. Et il va sortir donc un 8e album. Donc en décembre 2012, qui va s'appeler Trouble Man, Heavy is the Head, avec ce titre. Yeah.
Okay, we walk off in it, bitch. Yeah. Ballin' in it, bitch. Okay. Hoppin' out of Lambos and Ferraris in it, bitch. Poppin' bottle with a thick red supermodel, bitch. They may talk a lot of that, but they can't do a lot of it. Aye. Rico told me turn the lights on. So I grabbed the Audemars, threw the ice on.
Le début de la chanson, c'est exactement ce que j'imagine être quand t'es enfermé dans un flipper. Tu vois tous les bruits là qui pètent de partout.
Ça aurait fait un beau clip, non, ça aurait fait un beau clip d'ailleurs. Alors sur ce morceau là, il retrouve un autre un peu malade du game, tu vois, c'est Wheezy quoi, Lil Wayne.
Lil Wayne, Little Wayne. Ouais.
Et donc voilà, moi c'est un morceau qui j'ai beaucoup de sympathie, beaucoup de love pour cet album là d'ailleurs en général, et pour ce morceau parce que Lil Wayne c'est un mec qui est cassé aussi, tu vois, qui est un peu, tu sais, et dans le clip ils sont tous les deux, tu sais, à gigoter, tu sens qu'ils sont,
attends,
c'est deux malades
en fait. Est-ce que tu peux juste remettre le début là en flipper là?
C'est un peu ce qu'il y a dans leur tête en fait.
Ah ouais, mais là le ting ting. Incroyable. Aïe.
Mais c'est vraiment, c'est la boule qui circule dans leur cerveau. Là. Ting, ting, qui va à droite, à gauche. Et c'est un bon album. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à l'écouter, cet album.
Ouais.
Il enregistrera 80 titres.
Pour l'album, ça fait un gros CD quand même.
La légende dira qu'il enregistre 80 titres.
Celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ouais,
c'est celui-ci. Une pochette à la Tarantino, un peu.
Ouais, pochette à la Tarantino, ouais. Lettrage western, ouais, pourquoi pas. Ouais.
Pourquoi pas, j'ai pas compris le thème. Hein, parce que,
donc, alors là, sur cet album, hein, juste en regardant la pochette, il y a du Mick Mill, il y a du A$AP Rocky, il y a du donc Little Wayne, André 3000, Pink, R. Kelly. Ah, maintenant on en rit. Akon, toujours dans les bons coups celui-là, et CeeLo Green, hein, donc c'était CeeLo qui s'est rajouté CeeLo Green et qui après est devenu Gnarls Barkley, mais d'accord. Donc oui, c'est quand même du beau monde.
Oui, non, du beau monde, franchement, du beau monde, c'est un bon album, il est
même
solide.
Même le morceau avec la chèvre du Bengale, là, avec Akon, il est bien.
Ouais, j'ai l'impression de
l'entendre. Quand il chante Akon, j'ai l'impression d'entendre une chèvre.
Alors, là, on est sur la fin d'Akon, c'est vraiment les Akon. Ouais. Il a fait toutes les notes déjà. Bon, c'est un bon album, genre, je le conseille de l'écouter. Et puis surtout que, à ce moment-là, pour les auditeurs, enfin surtout pour les téléspectateurs aux États-Unis, à Noël 2012, il y a un titre qui va sortir sur le net et sur une mixtape. C'est ce titre-là avec un certain.
Alors ça c'est magnifique. Et je le dis, c'est même pas une question de Dr. Dre ou quoi, le sample il est mortel.
Ouais, il est mortel.
Le son il est mortel.
Ouais, il est mortel. Là il y a Dre qui va arriver, je pense, au morceau là.
Superbe.
Et le morceau,
ça rattrape le flipper baby foot qu'on a eu avant là.
Et le morceau il est tellement bon qu'il sortira jamais sur un album. Il va être utilisé pour une pub pour Dr. Pepper.
Quoi?
Ah ouais, c'est-à-dire qu'aux États-Unis les gens ils écouteront ce morceau pour une pub Dr. Pepper.
Putain, entre Memphis Bleek et son Fructis Flow là de Garnier. Ouais,
c'est que ça doit payer, t'imagines.
C'est-à-dire que là, t'as Dr. Dre qui te fait une frappe nucléaire et ça sort nulle part.
Ça sort nulle part, ça sera une pub Dr. Pepper. Oh. Enfin, ou alors sur une mixtape, je pense que sur une mixtape de Digidrama d'ailleurs, tu peux la retrouver.
Popped off. Bon, on la mettra dans la playlist celle-là magnifique.
Et d'ailleurs, c'est là que Dr. Dre et T.I., on en parlera plus juste après, ils vont commencer une relation assez intéressante.
Épistolaire.
Voilà. Alors ça n'empêche pas T.I. et lui de s'éclater toujours à côté, parce qu'avec Robin Thicke, il va faire Blur Line, le morceau
pour Parfait Life. Ah, mais oui, je suis con. Moi, j'ai retenu que Emily Ratajkowski là-dedans. Voilà, mais... Non, il y avait Tia à un moment donné. Ouais, dans le décor. Ouais, ok, c'est vrai.
Voilà, donc bon, il continue.
Putain, mais ça aussi, ils en ont vendu des brouettes et des boîtes.
Ça a été un carton, un tube. Je pense qu'on n'en a jamais. C'est un titre qui a tellement tourné, cet été-là.
Blur Lines, ouais.
Alors le clip a beaucoup tourné pour certaines raisons, tu vois.
Oui.
Notamment la version.
D'ailleurs, ils ont eu des petits problèmes parce qu'entre temps, Internet est devenu woke et avoir des femmes seins nus qui se trémoussent.
Exact.
Ah, c'est bon.
On peut dire aussi que ça a aidé sa petite carrière à Imrata quand même. Ça l'a aidé.
Oui. Alors de toute façon, c'était soit ça, soit un autre truc qu'elle aurait fait. Mais effectivement, à ce moment-là, tout le monde l'a vu quand même. Hein.
Voilà.
Tout le monde l'a vu à ce moment-là. Effectivement, c'est vrai. Mais donc, ça, c'est en quelle année ça?
Ça, c'est en 2013.
Ok.
2013. Et donc, ça fait 10 ans qu'il est signé chez Atlantic.
Il aura quand même rapporté un paquet de bifetons. Hein.
Ouais, un paquet de bifetons.
Est-ce qu'on ferait pas le total? Parce que le fait que tu dises ça fait 10 ans qu'il est chez Atlantic, ça veut dire qu'Atlantic, au bout d'un mois, ils vont dire bon, bah salut.
Surtout que le dernier album, on l'a pas dit, il a vendu quand même beaucoup moins, il a vendu 700 000 seulement.
Quoi, dans l'album avec
Troubleman.
Avec tous les All-Stars, là?
Oui, il en a vendu que 700 000.
Alors attends, 700 000. 700 000, celui d'avant, 1 million.
On mettra le générique des chiffres et des lettres.
1 million 7. 1 million 7 plus 3 millions 5. Ouais, on est à 5 millions là, facile. 6, 5.
Chiffre américain, on parle. 7,
8, 5, plus 500, 9, plus 1, 10, 11. Je compte pas les 200 000 d'Arista. On est à 11 millions hein, à la grosse, hein, je pense que. Et que sur le marché américain.
Que sur le marché américain.
Et donc là, tu me dis 11 millions de disques, 10 ans de carrière, ta maison de disques, elle te dit d'aller te faire foutre.
Bah, un petit peu quand même, tu vois, parce que on sait qu'ils sont très. C'est une montée d'âme, le marché de la musique, tu vois, et les majors notamment.
Non, mais attends, s'il y a 11 millions, tu te fais dropper, autant jamais faire d'album en major. C'est pas possible.
Je pense que son problème à TI, c'est qu'il devait avoir un coup d'album faramineux. Je
veux dire, sûr qu'en featurant la terre entière, oui.
Trop de feat, trop de. Tu vois, et que, comme on parlait la dernière fois, aux États-Unis, les budgets d'albums, souvent, c'est. Surtout quand t'es une star, c'est tu dois au moins faire un million minimum pour commencer à rentrer de l'argent. Là, il commençait avec cet album à 700 000 et celui d'avant, où il avait vendu à peine 1 million, il devait vraiment que ça commence à perdre de l'argent. Il devait sur le déclin, puis...
Mais ça, c'est pas la faute de l'artiste, c'est aussi la faute des A&R, des chefs de projet qui acceptent de mettre 90 featuring.
Bien sûr, mais est-ce qu'ils ont le choix aussi? Quand c'était T.I. qui dit « Ah, il y a mon pote, Eminem qui vient de rapper, tu règles ça avec eux, hein. Ouais, ouais. Tu règles avec la compta, directement. Non, tu vas, tu dis tu viens de la part de type, tu prends ton... Tu vois, donc voilà, ils ont pas trop le choix, je pense, Atlantique. Et donc, clap de fin avec l'Atlantique.
Putain. Et c'est vraiment un coup dur pour tous les musiciens en herbe qui nous écoutent de se dire que tu te fais shooter à 11 millions de ventes. Ok, donc clap de fin, alors qu'est-ce qui se passe?
Alors, Dr. Dre va vouloir le signer. Il va montrer vraiment, je me rappelle de certaines interviews où il dit ouais, moi T.I. ça m'intéresse. Il voulait vraiment faire, il aurait fait une collaboration. T.I. Dr. Dre, ça aurait
fait carrément. Ouais.
Jay-Z aussi va montrer de l'intérêt avec Rock Nation. Enfin, quasiment tout le monde, Sony, Universal. On va entendre des chiffres complètement fous, 50 millions là, 75 millions, ça va être vraiment là, comme
pour le cher. Prix du.
Pour le du concert. Oui, voilà, exactement. Tu vois.
On rappelle que 50 Cent, il était croc avec 1 million. Ouais. Parce qu'il avait signé le million de dollars.
Ouais, ouais, exactement.
Là, on est à 75 millions.
Ouais, mais c'est 10 ans après. Hein,
c'est de l'inflation. Bah ouais.
Alors, c'est ça l'ambiguïté de la chose, c'est que il y a des chiffres qui vont courir. On va entendre des 10, 15, 20, 50, 60, 70 millions. Et en novembre 2013, c'est avec Columbia qui va signer. Et il va signer une sorte de distribution deal. Un deal de distribution, c'est-à-dire qu'il sera juste dans les bacs.
Il est en édition.
Voilà. Non, mais pas juste en distribution. Non, il est en distribution. En distribution, c'est-à-dire qu'ils vont prendre ses bacs. C'est lui qui va produire l'album. Ils vont prendre ses disques, ils vont les mettre dans les bacs.
Donc ça reste un album grand neuf seul.
Voilà, indépendant. Un peu comme Lunatic qu'on parlait à l'époque.
C'est-à-dire,
t'es indépendant, mais t'es distribué par une major.
Alors, Columbia, c'est quoi? C'est Sony.
Columbia, c'est Sony, exactement. Alors, pour moi, ça, pour connaître un peu le marché, c'est souvent signe que ça va pas très bien. Que si tu, parce qu'aux États-Unis, on chipote pas sur un vrai deal, un deal maison de disque classique. Quand on a un distribution deal, ça va pas très bien, et que tous les chiffres qu'on entend à droite à gauche, si tu les as pas pris, c'est que t'es un peu quand même sur le déclin, et c'est que pas grand monde a vraiment voulu...
Ça peut pas être une volonté réelle de bosser en indépendance.
C'est trop dur, les États-Unis, pour travailler en indépendance. C'est possible, c'est dur. Je pense que tu peux faire ta maille. Mais aux États-Unis, ça ne suffit pas de faire de l'argent. Aux États-Unis, il faut se montrer. Il faut être à la télé. Il faut être sur la TV. Il faut être invité. Et ça, c'est les majors. C'est les maisons disques.
Tu vois, exactement. En béton armé.
Tu vois, ça coûte de l'argent, tu vois. Donc, il va quand même sortir, dans ces conditions, le 9e album, Paperwork, avec ce titre.
Okay. Okay. I fuck bad bitches. I don't want no mediocre. No, don't want no mediocre. I don't want no mediocre. No, bad bitches only. Ain't no mediocre. No, don't want no mediocre. I won't hit no mediocre. You a bad bitch stuntin' on a mediocre. On a mediocre. You stunt on a mediocre.
Il est fort, hein. Il est fort parce que ça, c'est complètement, c'est complètement dans l'air du temps.
Ah, bien sûr, c'était le Mustard, DJ Mustard.
DJ Mustard.
Et qui, c'était le hit maker, le hit de l'époque, enfin, du moment, quoi. En 2014, c'était
toujours un peu, hein.
Toujours un peu, ouais, toujours un peu. Même, hein. Donc, il est très fort parce que c'est un morceau qui sera en feat avec Iggy Azalea et cette chanteuse qui a fait un carton.
Iggy Azalea, oui, bien sûr, on connaît.
Il va avoir la bonne idée de la signer, cette Australienne. Il va la signer sur son label, Grand Hustle.
Et ils vont bon move.
Ouais, bon move, parce qu'ils vont vendre 40 millions.
Donc, 40 millions. Mais 40 millions, chiffre monde.
Chiffre monde. 40 millions.
Ouais, parce que je me dis, le mec, il passe de 700 000 à 40 millions.
Oui, parce qu'elle, est vraiment internationale. Je veux dire, ça, elle en vend partout. En France, en Australie, en Asie. Donc, le move, c'est là, tu te dis, les gens, c'est des destins, quoi. Mm. C'est-à-dire que lui, il est en déclin. Et ben, à ce moment-là, il te signe l'artiste qui pop, l'artiste R&B qui pète tout. C'est incroyable. Donc ce morceau va bien tourner, et en plus sur un autre morceau, Bad The Money avec Young Thug, qui sera un beau single, enfin qui sera un beau succès aussi. Alors l'album sera en indé, il va vendre 200 000. Ce qui est respectable en indé, c'est-à-dire si tu fais de l'indé, l'indé pur, 200 000 c'est très respectable.
Bah oui.
Mais 200 000 c'est pas des chiffres de TI.
Ouais.
C'est trop faible,
Il s'auto-déçoit, là.
Ouais, et je pense qu'il s'auto-déçoit.
Mais comme il peut pas se quitter lui-même.
Voilà, exactement. Tu vois?
Il se fout pas à la porte.
Alors, il, entre guillemets, quitte Columbia.
Finalement, il était jamais
vraiment signé chez Columbia, tu vois. Ouais. Mais bon, voilà.
Donc, il coupe le deal de distribution. Exactement.
Et là, il va y avoir l'époque, là, on pourra en parler, où il va devenir co-owner avec Jay-Z de la plateforme digitale Tidal.
Ouais, Tidal.
Tidal, voilà.
Ah, putain. Le Spotify de Jay-Z.
En France, on connaît pas très bien.
Ah, bah si, on connaît, mais à chaque fois, c'est pour rigoler, hein.
Oui, voilà.
Si on se rappelle surtout du lancement de Tidal, avec Madonna qui signe avec un cuisseau sur la table.
Scandale.
J'ai jamais signé un seul chèque comme ça. Je regrette, hein. Je regrette de pas signer. Tu vois, tu signes ton contrat, ton bail ou un truc comme ça. Tu le signes en t'allongeant la Madonna. Oui, effectivement, cette plateforme chez nous, malgré les promesses d'avoir en exclusivité Beyoncé, Jay-Z et toutes leurs pros.
Même Thierry, c'était aussi une des promesses. Madonna, enfin tout. En fait, en gros, c'était sur les 10 prochaines années, tous les gros pop stars, tous les gros rap stars devaient signer en exclusivité chez Tidal.
La plateforme existe encore.
La plateforme existe encore. Il y a toujours, tous les 6 mois, il y a une rumeur d'achat d'Apple. Qui va racheter. Donc ça fait certainement pour les actionnaires, ils sont forts, hein. Donc ça fait remettre
d'argent. Voilà, du cash,
exactement. Ouais. Et donc le 10e album, qui s'appelle Dime Trap, sortira lui en totale indépendance. Avec ce morceau. For real, they say we talk about money too much, but maybe they ain't getting money enough. I say, Dima, little papi, he come with a truck, he gon' make me a tab, and I'm running it up. Gracias. Let me welcome you, get introduced to the king. Bentley, Ferrari, brand new and they clean. So disappointed when niggas on shit on their record. You see them, don't do anything. Okay, killing these niggas with more and more. Why? Ah, y'a à boire et à bouffer là-dedans. Alors, grosse ambiance mexicaine chez Star. Ça s'appelle comment? Jefe.
Ok.
Jefe.
Par contre, la prod, c'est un gars qui s'appelle Mr. Bangladesh.
Eh hey, oui, c'est les Américains.
Ok. Donc, c'est un featuring avec Meek Mill.
Voilà, donc il arrive toujours à bien s'entourer comme le T.I. Donc
tu l'as celui-là, Dime?
Non, celui-ci je l'ai pas là. Je l'ai pas sur non. Je me demande s'il est sorti en physique. Ah. Parce qu'il a sorti, donc il en a vendu 100 000.
Ça date de quand ça? 2018.
Ah, 2018. Oui. Donc il y a l'année dernière, enfin il y a un an et demi. Et j'ai écouté l'album, c'est un album qui a pas grand intérêt. Ce sera distribué comme chez Roc Nation, j'ai oublié de le dire.
Donc Roc Nation donc le label de Jay-Z.
Et donc voilà, c'est un album sympathique, bon, avec beaucoup de titres comme ça. D'ailleurs, la façon de rapper, je sais pas si vous avez remarqué, il a quasiment plus la voix qu'il avait.
Bah, ni le flow d'ailleurs, il s'adapte à son époque, hein.
Ouais. Et ou alors, il a changé aussi, tu vois,
En même temps, pour rapper bien sur un morceau, c'est la lucha libre, là. Ouais. Tu vois, des mecs, j'ai pas vu le clip. S'il y a un clip, ils doivent avoir des cagoules de lutteurs.
Ouais. Je me demande s'il y a un sombrero dans ce clip.
D'ailleurs. Attends, là, il va avoir tout le village, en fait, parce que le sombrero, ça suffit pas. Hein.
Ouais. Et donc. Là, on arrive au clap, nous aussi, au clap de fin avec Thierry, parce que c'est son dernier album.
Bah 2018, ça va, tu vois, on aurait pu croire, parce que le mec, il a commencé en 2001.
Ouais, 2001, 2002, ouais.
Donc on aurait pu se dire, ah là là...
C'est une belle carrière.
Bah ouais, 18 ans, 17 ans, et encore, c'est pas fini.
Non, bien sûr que non, c'est pas fini. C'est pas fini parce que en octobre, on pourra le retrouver sur Netflix, dans un show où il y a pas mal de promos là-dessus, qui s'appelle Rhythm and Flow.
Bah oui, c'est le pop star
exactement.
Rap.
Voilà, exactement. Donc avec Cardi B et Chance.
D'accord. Chance the Rapper.
Voilà, ça va sortir en octobre. On pourra regarder ça. Puis je pense que ça va buzzer. Il y a pas la raison, tu vois. Ils vont sortir encore un artiste de là.
Le casting, c'est marrant parce que du coup, c'est lui qui détonne maintenant parce que Cardi B et Chance the Rapper, ils ont carrément une actu.
Ouais, exact.
Alors que T.I. Du coup, T.I. c'est un peu le fleur en panier du truc. Quoi.
Voilà.
le mec de téléphone là. Ah, Bertignac. Voilà.
Dédicace.
C'est le Bertignac du hip-hop, quoi.
Ouais.
Ah, c'est un peu chaud quand même d'avoir ce rôle de yeuve.
Eh oui, bon, je pense qu'il a du cachet lourd.
Netflix. C'est un Netflix Originals en plus.
Oui, c'est un Netflix Originals. Oui, bien sûr, c'est un Netflix Originals qui va sortir en octobre là.
D'accord.
Donc c'est son actualité, hein, parce que c'est ce qui va arriver.
Mais t'as vu, ça veut dire que là on fait la rétrospective d'un artiste et le mec est encore vivant. C'est incroyable. Alors il faudra noter que malgré tous ces déboires politico-judiciaires, plus judiciaires que politiques, d'accord. Oui. D'ailleurs, il s'est jamais fait tirer dessus.
Non, c'est vrai.
C'est incroyable.
Vrai. C'est lui aussi. Alors il était petit. Il était petit, c'est un petit gars, donc
peut-être passer sous les balles.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il je suis d'accord avec toi, surtout dans sa période.
Bah oui, parce que le mec, il fait quand même des conneries, qui lui vaille des allers-retours au ballon assez régulièrement.
Oui.
Et finalement, il s'est jamais fait planter à la brosse à dents ou...
Jamais. Et puis, alors, il est très, comme je te disais tout à l'heure, il est très consensuel. C'est-à-dire que tout le monde aime T.I. Tout le monde aime T.I. C'est le gars.
Sauf la police, apparemment.
Oui, voilà. Sauf la police, bon, ça, il leur rend bien.
Je rappelle qu'il est noir aux États-Unis, ouais, normalement. Voilà. Il aurait dû déjà s'en prendre une depuis belle lurette.
C'est vrai que d'un côté ou de l'autre, il aurait dû s'en prendre
une. Bah oui, oui. En fait, bon, comme quoi, il est assez chanceux. Ouais. Hein. Le petit type Harris. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on termine sur.
C'est comme ça qu'on conclut en tout cas.
Sur une bonne note, on pourrait dire bon, même si la musique marche plus, il poursuit d'autres endeavors.
Exactement, qu'il a signé Iggy.
Iggy Azalea. Voilà, donc je sais pas ce qu'elle donne Iggy Azalea en ce moment. Là.
En ce moment, elle a pas trop d'actu, je pense.
Parce qu'elle a tout pété quand elle est arrivée, mais après elle est tombée pile dans le bordel des rappeuses femelles.
Ouais, et puis les femelles rappeurs. Elles se sont toutes clashées entre elles.
Bah
aussi,
oui, il y a Nicki Minaj qui a annoncé sa retraite. Exactement. Elle devient un sujet d'émission pour nous. On ne fait que les artistes morts ou retraités. Voilà, ouais. T.I. est une exception. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce brave artiste?
Alors,
un mot pour, tu vois, histoire de conclure.
Moi, voilà, c'est ce que j'aime dans cet artiste, c'est qu'il est respecté de toutes les côtes. On parle West Coast, East Coast. C'est un artiste qui est méconnu chez nous. C'est pour ça que je tenais voilà, qu'on en parle et qu'on fasse découvrir aux gens.
C'est quand même incroyable de se dire qu'un artiste est méconnu alors qu'il a vendu 12 millions d'albums.
Je pense que c'est le seul à ce point-là. Je pense que c'est le plus méconnu des superstars.
Vraiment.
Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et qu'on les a fait voyager.
Il est venu en France, T.I. ou pas? Il a jamais fait un Zénith, un Bercy?
Certainement. Moi, j'ai pas le souvenir, je ne peux pas être là. Mais certainement. Mais si on n'a pas le souvenir, ça veut dire qu'il n'est pas venu souvent.
Ouais, ça c'est vrai.
Tu vois, donc tu vois que les maisons de disques en France ont jugé que dépenser 3 premières classes, enfin. Je dis 3, 20 premières classes plus.
Avant de se quitter, chacun, on va dire quel est le morceau qu'on préfère.
Ah, intéressant ça. Je l'ai dit.
Donc de quel album? Alors vas-y, redis-le nous. Toi, ton choix c'est.
Moi, c'est Swag Like Us.
Moi, je suis pas du tout d'accord. Hein, parce que pour moi, évidemment, Gis, si tu peux me caler le petit What You Know.
Ah, c'est bon ça. Là, tu fais les mouvements d'essuie-glace avec tes bras, tu vois.
C'est... Les essuie-glaces comme ça, c'est essuie que dalle. Ils croisaient les bras. Voilà. Ah là là, ce morceau est incroyable. Ouais. Bien, c'est une bien belle façon que de fermer le livre sur la carrière de T.I. Que de se rappeler de ses meilleurs morceaux.
The King,
T.I.
Man.
Donc, à retrouver, comme on le disait, en octobre sur Netflix. Oui. Pour Rhythm and Flow, et puis moi j'espère que peut-être qu'il sortira un album, tu vois, 11 cred.
C'est bien possible, certainement.
L'album de la sagesse, voilà, tu vois, de la sérénité.
Exactement.
Et puis qui nique tout en fait, parce que c'est tout le mal que je lui souhaite à ce brave garçon. Voilà, je pense qu'on a tout dit pour ce deuxième épisode de Six and Dance.
Yes sir.
Est-ce que tu sais déjà où on va aller pour le troisième épisode?
Je pense qu'on va revenir sur New York.
Ah!
Je pense qu'on va venir sur New York et j'ai envie d'entendre aboyer un petit peu.
Oh non. Oh merde. Ok. Bah on parlera de ça. À l'épisode 3, ça va être. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme on a dit au début, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur Twitter ou sur le forum de qualité. On a un Patreon, on a un Fibre Tigre et Patreon, c'est génial, il écrit des trucs toutes les semaines. N'hésitez pas à vous inscrire au Patreon, à vous abonner pour avoir droit en exclusivité au newsletter de Fibre Tigre. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines. Bye bye.
Ciao.
Yeah.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.